La revue de presse, Claude Askolovitch, on parle d'un doute ce matin.
Qui nous dit le Figaro a saisi la Suède qui s'interroge sur son libéralisme passé. Car le pays fut pionnier dans la reconnaissance de la dysphorie de genre, cette souffrance qu'éprouvent celles et ceux qui savent qu'ils ne sont pas nés dans le bon corps. Dès 1972, la Suède accompagnait médicalement les transgenres dans leur transition et étendait cet engagement aux adolescents. On avait débattu ces dernières années de la possibilité de rendre légal un changement de sexe à 12 ans. Mais en mars dernier, l'hôpital Karolinska, qui avait pratiqué l'ablation des seins chez des adolescentes, a décidé de ne plus donner de traitements hormonaux aux mineurs. Pourquoi ? Parce que la prise d'hormones pourrait favoriser des maladies cardiovasculaires et des cancers. Mais plus encore, nous dit le Figaro, se joue une question de société. Les cas de dysphorie de genre chez les jeunes gens se multiplient. 12 personnes de moins de 25 ans en 2001, 1859 en 2018. De plus en plus de filles de 13 à 17 ans veulent devenir des garçons et prennent de la testostérone. Les associations de soutien aux transgenres disent que c'est normal. La visibilité amène des gens à réfléchir et dire leur vérité. Mais d'autres redoutent des diagnostics hâtifs, une manière trop simple de résoudre l'anxiété ou les hésitations de l'âge. Et le Figaro met en avant Johanna, qui à 14 ans avait décidé qu'elle serait Casper, un garçon, et entrepris avec des hormones de le devenir, avant de rebrousser chemin quand un psychologue lui révéla qu'elle détestait son corps ancien parce qu'elle était anorexique et non pas le contraire. Alors Johanna tua Casper et redevint fille. Et cette question n'est pas seulement suédoise, mais bel et bien de France. La France, où l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles titrait récemment contre la folie trans. Quant à l'opposé, l'Obs, encore en kiosque et sur son site, raconte le parcours d'adolescent en transition. Il est marrant, Ruben, 14 ans, qui, quand il était petite fille, regardant Rebelles de Disney, voulait être le musclé roi Fergus. Et l'Obs confirme que chez nous aussi, les cas se multiplient, les consultations psy sont débordées. Un enfant sur 500 vivrait dans le mauvais sexe, nous dit l'hebdomadaire. Devenons-nous suédois quand les Suédois cessent de l'être ?
On parle aussi d'enfants militants.
Qui en 2019, dans un repas de famille, asticote papa qui est dans la finance. Un gestionnaire de fonds spéculatif qui a fait la culbute dans Internet et a placé des billes dans le charbon et le stockage du pétrole et du gaz. Mais en dehors du boulot, il se dit écolo, ce qui fait rire ses enfants. Comment peux-tu dire que tu défends l'environnement, papa ? Et c'est ainsi que papa Christopher James a changé de vie, raconte le Wall Street Journal dans un article que publie L'Opinion. Il a créé un nouveau fonds d'investissement Engine et avec ce fonds est parti à l'assaut de Exxon, vieux géant du pétrole rétif aux enjeux verts, qu'il a fini par conquérir. Exxon va devenir vertueux. Et cette histoire nous dirait à la fois la résilience du capitalisme et le pouvoir des petits garçons verts. La génération climat, comme dit le Parisien, qui en fait une page, quand le bien public en fait deux sur des écoliers de la Côte d'Or, qu'on éduque à l'école à aimer et soigner la nature et qui savent que les coccinelles valent mieux que les pesticides et qu'il vaut mieux manger des légumes à la place de la viande. Mais hélas, la jeunesse n'est pas composée que d'enfants des écoles. La Croix relaie ce matin l'enquête d'un collectif de chercheurs et nous dit que la génération climat est un mythe. Plus de la moitié des jeunes gens, 57%, sont indifférents à l'environnement. Ils ont autre chose à faire dans leur vie ou bien sympathisent mollement mais sans s'engager ni changer leur comportement. Et chez les jeunes écolos, on se divise entre ceux qui sont de gauche et qui manifestent dans la rue et ceux qui sont de droite qui pensent que le capitalisme et la technologie résoudront nos crises. Nous allons donc encore débattre. La Croix encore nous raconte la ville de Mexico, où les pluies sont rares et l'eau vient à manquer et des bandits désormais braquent les camions-citernes. On pompe alors sous la ville à la recherche des vieilles nappes enfouies, car jadis les Aztèques avaient bâti la ville sur un lac, mais à force de pomper le sol s'effondre et la ville s'enfonce comme happée par la sécheresse. À Angoulême, c'est un autre effondrement que nous dit la Charente Libre, car avec la retraite fin juin du docteur Reinhardt, l'hôpital Girac n'aura plus de médecins oncologues capables d'assurer les chimiothérapies et les malades du cancer devront aller ailleurs, à Périgueux, à Saintes, à Bordeaux, à Poitiers, à Limoges. Ainsi devient-on, faute de prévoyance, un désert médical.
Et on parle enfin d'un dessinateur.
Qui est très bellement raconté dans Libération et Le Monde et le site de l'Obs, Nikita Mandrika, mort dimanche à 80 ans, qui inventa le personnage foutraque du concombre masqué au rare vocabulaire, chourave bretzel liquide archi de zoo, mais qui surtout incarna la liberté exaltante des bédéastes des années 60 et 70 qui s'épanouissaient sous la férule du grand Albert Goscinny dans Pilote et puis prirent leur indépendance. Mandrika rompit avec Goscinny quand celui-ci lui refusa, au nom de l'incompréhension prévisible de la France profonde, une planche où le concombre immobile sur plusieurs cases regardait pousser les rochers. Dans Mediapart, j'en termine, un petit article monté à la une du site évoque un jeune homme qui aura essayé contre lui-même d'être heureux et libre, mais qui depuis son enfance vit avec l'idée, ce sont ses mots, qu'il survit dans un monde étranger. Il a décidé de ne plus y survivre. Il s'appelle Alexandre Dobrov, dit Alex Dobro. Il est une figure du monde des jeux en ligne où, contre la violence de la culture, il a imposé un espace pour les gamers homo et trans, LGBT, nous y revoilà. Dobro, autiste, d'une intelligence précise et impressionnante, au moment de quitter ce monde, c'est cela qu'il annonce, met en ligne un texte de plusieurs centaines de pages où il repasse toute sa vie, ses peurs, ses addictions, sans en oublier aucune. Son texte et les autres de son blog, allez voir, resteront un document clinique et humain, passionnant et glacé, bouleversant, sur un homme autiste parmi nous, semblable et irréductible, et qui ne veut plus être.
Merci Claude pour cette revue de presse. France Inter.